Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, le secrétaire général à Washington pour appuyer la lutte contre l'impact économique d'Ebola. L'ONU lance un appel de fonds pour répondre aux besoins humanitaires au Yémen. Le HCR dénonce les tragédies en mer Méditerranée et s'inquiète des mouvements de population au Burundi. L'UNICEF crée un nouveau fonds pour améliorer la nutrition des enfants. Enfin, le HCR dénonce les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Et tout d'abord, le bulletin avec Isabelle Dupuis.
On commence ce journal avec le déplacement du secrétaire général à Washington, où il a participé aux côtés des présidents de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone à un événement organisé par la Banque mondiale pour renforcer l'appui accordé à ces trois pays touchés par l'épidémie d'Ebola. La Banque mondiale s'est d'ailleurs engagée aujourd'hui à leur fournir une enveloppe supplémentaire d'au moins 650 millions de dollars pour les aider à faire face aux lourdes conséquences économiques de l'épidémie. Les dernières prévisions de la Banque montrent en effet qu'en 2015, le montant des pertes du PIB dû à Ebola s'élèverait à 2,2 milliards de dollars pour les trois pays. David Nabarro, l'envoyé spécial sur la lutte contre Ebola, était également présent.
Nous sommes toujours mis à l'épreuve. L'épidémie progresse toujours. Et nous n'avons toujours pas réussi à atteindre le point zéro. Pour cela, nous devons redoubler d'efforts dans le cadre d'un appui coordonné au gouvernement et aux populations, surtout au cours des prochaines semaines avant que la saison des pluies ne soit pleinement établie. Nous ne pouvons pas tourner le dos et nous retirer à ce moment des plus délicats. Assurons-nous tous que nous chercherons à mettre un terme à l'épidémie au cours des prochaines semaines.
L'ONU et ses partenaires appellent la communauté internationale à fournir de toute urgence plus de 270 millions de dollars pour venir en aide aux populations du Yémen. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge s'inquiète du manque cruel de médicaments, d'aliments et de carburant dans le pays, où les récentes violences ont fait 767 morts et près de 3000 blessés. Cédric Schweitzer est responsable du CICR au Yémen.
Le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a spécialement un embargo qui empêche ces médicaments de venir, mais il n'y a pas possibilité de les faire venir aujourd'hui. C'est juste qu'on a trouvé les pipelines pour faire venir ces médicaments au Yémen. Et pour l'instant, on a eu beaucoup de difficultés de les trouver pour que ce soit quelque chose de reliable et quelque chose qui puisse être à flux continu. Donc on doit travailler là-dessus pour qu'il y ait cette possibilité de faire venir ces médicaments. Une fois encore, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un embargo sur les médicaments. Je suis en train de dire qu'on ne reçoit pas aujourd'hui ces médicaments. C'est extrêmement difficile pour le ministère de la Santé d'avoir ces médicaments au Yémen.
Les tragédies en mer Méditerranée continuent avec l'afflux de migrants clandestins vers l'Europe, dont une grande partie quitte depuis les côtes libyennes. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, plus de 35 000 réfugiés auraient effectué la traversée vers l'Europe depuis janvier et près de 1 000 personnes auraient perdu la vie. Le HCR exhorte l'Union européenne à établir une opération de recherche et de sauvetage robuste afin d'éviter que ces personnes ne risquent leur vie, à l'instar d'un groupe de rescapés érythréens et somaliens qui sont arrivés ce matin à Lampedusa. Adrien Edwards, porte-parole du HCR.
Un navire de la marine italienne a accosté à Lampedusa, transportant 70 réfugiés rescapés d'un zodiac dégonflé. Ils étaient en état de choc sévère. Ils ont expliqué au personnel du HCR qu'ils avaient été victimes d'une explosion de gaz de cuisine dans un centre de détention géré par des passeurs en Libye et qu'ils avaient été forcés à embarquer sur le zodiac sans que leurs blessures ne soient soignées. 5 ont été transférés par hélicoptère vers des hôpitaux en Italie, 20 dans un centre médical de l'île, le reste au centre d'accueil. Ce dernier incident épouvantable impliquant des passeurs montre la nécessité urgente de créer des alternatives sûres et légales afin que les réfugiés n'aient pas besoin de mettre à risque leur vie de cette façon.
L'approche des élections présidentielles au Burundi provoque d'importants mouvements de la population locale vers des pays tiers, notamment ces deux dernières semaines. Le Haut Commissariat pour les réfugiés indique qu'environ 1 000 000 de Burundais auraient pris refuge en République démocratique du Congo et plus de 7 000 au Rwanda. Les explications de notre correspondant à Genève, Alpha Diallo.
La tension ne cesse de monter au Burundi autour des candidatures à l'élection présidentielle, une tension qui va crescendo à 3 mois de cette échéance importante dans l'agenda politique avec comme conséquence directe d'importants mouvements de population. Par crainte de la violence, plus de 8 000 Burundais ont ainsi fui leur pays ces deux dernières semaines. Selon Adrien Edwards, porte-parole du HCR, les réfugiés burundais ont signalé des cas de harcèlement politique, d'intimidation, de disparition de familles liées aux partis politiques d'opposition. Certains ont évoqué des recrutements forcés opérés par la la Ligue des jeunes, les Zimbo Nerakure. Il faut juste signaler que plus de 60% des réfugiés arrivant au Rwanda sont des enfants. Et ces Burundais sont pour l'instant hébergés dans deux centres situés dans les districts de Nyanza et de Bugesera. Par ailleurs, les humanitaires redoutent un afflux beaucoup plus important de requérants d'asile burundais dans les pays limitrophes. La HR note que le Rwanda héberge déjà plus de 74 000 réfugiés, notamment des personnes originaires de RDC. Alpha Diallo Genève pour la Radio des Nations Unies.
Enfin, le pouvoir de la nutrition, un nouveau fonds indépendant lancé aujourd'hui, va aider des millions d'enfants à atteindre leur plein potentiel. Regroupant la Children's Investment Fund Foundation, la UBS Optimus Foundation, le ministère britannique pour le développement international, l'UNICEF et la Banque mondiale, le partenariat vise à débloquer 1 milliard de dollars pour lutter contre la dénutrition infantile dans certains des pays les plus pauvres du monde. Jérôme Languet.
Avec 1 milliard de dollars, le pouvoir de la nutrition ambitionne de sauver des vies et d'aider des millions d'enfants à échapper aux effets de la malnutrition. Il faut savoir qu'en l'absence de bons nutriments, de services de santé et de soins dans les 1000 premiers jours de la vie, le cerveau et le corps d'un enfant ne parviennent pas à se développer correctement. Or, contrairement à la faim, ces effets sont invisibles et irréversibles. Pourtant, la dénutrition est la cause sous-jacente de 45% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, soit près de 3 millions de décès par an. À cause d'elle, près de 4 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud ont des cerveaux et des organismes sous-développés. Mais ce n'est pas tout. Les filles sous-alimentées se transforment en mères sous-alimentées qui donnent naissance à des enfants souffrant de malnutrition. Un véritable cercle vicieux qui freine l'épanouissement des générations futures et qu'entend briser le nouveau fonds.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec le Yémen. L'ONU a lancé un appel de fonds de presque 274 millions de dollars ce vendredi pour répondre aux besoins vitaux de protection de plus de 7,5 millions de personnes touchées par l'intensification du conflit. Ce conflit dévastateur se déroule dans un contexte de crise humanitaire qui était déjà une des plus grandes et complexes au monde. Les explications de Jens Lerke, porte-parole d'OCHA à Genève, au micro d'Alpha Diallo.
Il faut absolument venir en aide au Yémen maintenant. Le conflit s'intensifie au jour le jour. On vise avec cet appel urgent 7,5 millions de personnes. Et leurs besoins sont vraiment aigus. Ils ont besoin de soins médicaux, de la nourriture, de l'eau potable, de la protection. Ça veut dire que c'est vraiment urgent de venir en aide au Yémen aujourd'hui.
Et ces 274 millions, c'est pour combien de temps? C'est pour 6 mois? C'est pour 3 mois?
C'est pour 3 mois, ce qui souligne l'urgence de la crise.
Le coordinateur humanitaire du Yémen disait dans le communiqué que cette crise est l'une des plus grandes et les plus complexes au monde. Pourquoi?
Bon, c'est l'une des plus grandes et plus complexes du monde parce que la crise actuelle s'ajoute à une crise qui existait déjà avant cette augmentation des conflits. On avait, vers la fin de l'année 2014, presque 60% de la population qui avait besoin d'aide, déjà il y a quelques mois. S'ajoute à ça, ça veut dire une crise déjà aiguë et encore devenue plus grave.
Et avec cet appel, quelles sont les zones les plus visées par rapport à l'assistance humanitaire? C'est-à-dire, on sait que l'intensification des combats, c'était à Sanaa, puis à Aden, mais quelles sont les autres zones les plus touchées par cet conflit civil?
Bon, le conflit et les crises s'étendent dans tous les pays. On sait que 18 gouvernorats des 22 gouvernorats qu'on a au Yémen sont touchés par des frappes aériennes. On a des combats sur le terrain un peu partout dans le pays.
Et quel est le dernier bilan que vous avez au sujet de la situation humanitaire par rapport aux pertes civiles sur place?
Il y a différents chiffres actuellement par rapport au nombre qui ont perdu leur vie pendant la crise, mais c'est plusieurs centaines. Parmi eux, plusieurs centaines des civils, y compris des enfants. À cela s'ajoutent au moins 150 000 de déplacés qui s'ajoutent à plus que 300 000 qui étaient déplacés déjà avant le conflit. C'est ça vraiment les chiffres, des indicateurs de la crise. Il y a aussi le nombre des personnes qui sont touchées par l'insécurité. Sécurité alimentaire, c'est augmenté d'environ 10 millions à 12 millions déjà.
On voit dans le rapport qu'a fait le CICR aujourd'hui lors de la conférence de presse que beaucoup, les infrastructures sanitaires ne sont pas épargnées. Est-ce que ça montre aussi la gravité de la situation sur le terrain?
Absolument. Nous avons plusieurs rapports des violations de la loi internationale humanitaire. La loi internationale humanitaire interdise aux combattants de viser l'infrastructure civile. Mais on a vu des mosques, on a vu des écoles, on a vu des hôpitaux touchés par la crise, touchés par les frappes.
Avec ce lancement de l'appel humanitaire, quels sont les besoins les plus urgents pour les organismes humanitaires, pour les populations civiles à venir en aide?
Selon l'appel, les besoins les plus urgents comprennent les fournitures médicales, l'eau potable, la protection, l'assistance alimentaire, les abris d'urgence et un soutien logistique pour pouvoir amener l'aide à la population.
Qu'en est-il de l'accès des humanitaires? Parce que le coordinateur avait demandé une pause humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a également demandé une trêve. Qu'en est-il de l'accès des humanitaires sur le terrain présentement?
L'accès humanitaire est très, très compliqué. C'est un conflit armé qui se déroule autour de nous. On a eu pas mal de problèmes à faire venir des biens, simplement de faire venir l'aide. Parce qu'il y a des frappes aériennes qui touchent des aéroports. Il y a des combattants qui sont dans les ports. Tout cela sont des contraintes à faire venir de l'aide humanitaire.
Une série d'attaques xénophobes depuis ces dernières 3 semaines en Afrique du Sud a entraîné le déplacement d'au moins 5000 personnes, selon le commissariat aux réfugiés. L'essentiel des attaques s'est passé dans la province du KwaZulu-Natal, à l'est du pays, plus particulièrement dans la ville de Durban, où de nombreux magasins dans les townships ont été pris pour cible. Tina Grelli est porte-parole du HCR en Afrique du Sud. Elle revient sur les conséquences de ces attaques au micro de Tsige Chiferao.
Il y a beaucoup de gens qui ont été attaqués près de Durban. Ils ont été déplacés et ils ont perdu le moyen de subsistance.
Est-ce qu'il y a eu des morts pendant ces attaques?
Ah oui, selon les rapports que nous avons eus, il y a eu 6 morts. Il y a eu 2 Éthiopiens qui ont été tués pendant les attaques et d'autres gens qui ont été tués parmi toute la violence qui s'est passée.
Ces violences ont déjà eu lieu il y a plusieurs années. Est-ce que vous avez une idée de ce qui provoque ces attaques?
C'est vrai qu'il y a eu des attaques dans l'année 2008, mais depuis là, jusqu'à maintenant, il y avait des petites attaques qui continuaient, surtout dans les townships où il y avait des Somaliens éthiopiens qui avaient leur business dans les townships. Ce qu'on a vu pendant ces attaques-là, c'était vraiment en réponse quand il y avait des gens de la communauté qui étaient en train de protester contre le gouvernement pour les provisions des services dans les communautés. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a eu un prononcement par le roi des Zoulous. Et ce que les réfugiés nous ont dit, que quand les gens sont venus les attaquer, ils étaient en train de suivre le message du roi des Zoulous. C'est ça qui a peut-être provoqué un peu plus des attaques qu'on a vues depuis 2008.
D'où viennent la plupart des réfugiés qui ont été affectés par ces attaques?
La plupart des réfugiés qui viennent de Somalie, Éthiopie, Congo et d'autres gens qui viennent de Mozambique, Malawi ont été aussi affectés.
On parle de 5 000 déplacés à cause de ces violences. Vous confirmez ces chiffres?
Oui, on avait une équipe à Durban qui sont allés regarder ce qui se passe et comment le gouvernement est en train de répondre. Et il y a effectivement 5 000 personnes qui ont été affectées, qui sont en train d'être aidées dans les 4 sites autour de la province. Mais aussi, on a eu des reports d'autres gens qui ne sont pas allés dans les sites, mais qui sont un peu déplacés, mais qui logent dans des mosques, des églises ou d'autres endroits avec des amis. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été affectés, mais on ne peut pas les voir parce qu'ils sont aidés par des autres gens dans la communauté.
Est-ce que vous savez s'il y a aussi des attaques ou des situations similaires dans d'autres provinces du pays?
Oui, dernièrement, il y a eu encore des attaques tout près de Johannesburg et il y a un endroit où il y a autour de 1 000 personnes qui ont été déplacées, qui sont aussi en train d'être aidées par le gouvernement. Mais ça, c'est les seuls endroits où on sait qu'il y a des gens qui sont déplacés. Ailleurs, on a eu beaucoup de reports qu'il y avait d'autres endroits, dont les townships, des petits magasins qui sont gérés par les Somalis qui ont été ciblés et attaqués.
Et vous avez parlé de la réponse des autorités. Quelle a été leur réponse?
Ce que nous sommes très encouragés de voir, c'est que cette fois, le gouvernement est vraiment proactif. Ils ont envoyé beaucoup plus de police dans la province de KwaZulu-Natal pour essayer de contenir toutes les attaques. En plus, on a eu des prononcements par des autorités comme le président et comme plusieurs ministres qui condamnent les attaques et qui disent qu'ils sont là pour protéger tout le monde qui sont dans l'Afrique du Sud, des étrangers et les Sud-Africains. Cette fois, on est vraiment content qu'ils ont pris la situation très sérieux et ils sont vraiment en train d'essayer d'améliorer la situation.
Et c'est avec Tina Reilly que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.